maintenant un bon bois de casse.
Maintenant un bon bois de casse. Maintenant un bon bois de casse.
Et bonjour à toutes et tous, nous sommes sur le stand de Flatline Games qui a été créé par Eric Anuise. Bonjour Eric.
Bonjour.
Alors nous sommes en deuxième jour du salon, plus ou moins, hein, on est jeudi, juste, donc on est en deuxième jour, c'est le deuxième jour.
Bah, le premier jour officiellement ouvert en fait, hein. Le mercredi c'est surtout les exposants, les auteurs de jeux, etc. A priori c'est pas ouvert, mais c'est vrai qu'il y a déjà beaucoup beaucoup de monde qui réussit à passer.
Voilà, tout à fait. Alors Flatline Games, c'est une société que tu as créée l'année passée. Et qui tu as d'abord créé en ressortant tel un archéologue un jeu qui s'appelle Dragon Rage. Mais d'abord, avant de parler de ces choses-là, comment, en tant que créateur de jeu qu'on connaissait déjà sur Battle Chaos, hein, que tu avais fait avec Frédéric Moyersoul, qu'est-ce qui t'a fait passer du, je vais pas dire du côté obscur, mais bon, on se comprendra, en tant qu'éditeur de jeu?
Ben, sont deux approches différentes et qui, à mon sens, sont complémentaires. Ça fait des années que j'embête un tas d'éditeurs établis et néanmoins belges. Il y en a même qui portent des sombreros et que très gentiment ils répondent à toutes mes questions, et ça m'a permis de comprendre comment ça fonctionne. Et je me suis rendu compte qu'à l'heure actuelle, avec le miracle d'Internet, le miracle de l'informatique et un tas de petits miracles que plein de gens accomplissent au quotidien, ben finalement, c'était peut-être possible, à côté d'un vrai métier, d'être aussi éditeur de jeux et peut-être même un jour d'être vraiment éditeur de jeux et d'en faire un vrai métier. Ouais. Ça prendra encore du temps, mais pourquoi pas, peut-être un jour, on peut rêver, quoi. Ouais,
d'accord. Mais donc, ça veut dire que tu avais ça en tête depuis très longtemps, parce qu'on... On peut simplement adorer, être passionné par la création de jeux. Qu'est-ce qui fait qu'on a envie d'éditer du jeu?
C'est surtout l'envie de jouer à certains jeux qu'on ne trouve plus. Mmh. C'est ce qui s'est passé avec Dragon Rage. J'avais envie de me mettre au wargame. Le jeu d'histoire, le jeu vraiment historique, ça ne m'amuse pas, ça m'ennuie. J'ai toujours été une nulle en histoire, une nullité d'horrible. Et donc dans un wargame classique, il y a un tas de petites règles qui disent « Ah, ça c'est comme ça parce que tel jour il s'est passé ça, etc. etc. » Et c'est juste des trucs à retenir en plus qui ne m'amusent pas. Et je me suis dit « Mais enfin, si c'était, je sais pas moi, juste des orques et des elfes ou un truc sur la lune, il n'y aurait pas toutes ces règles, machin. » Et il y a sûrement des gens qui ont fait ça. Et effectivement, il y avait un tas de wargames fantasy, SF et autres qui sont sortis dans les années 80, mais plus personne n'en fait. Krayavok, qui est une référence du genre, on le trouve pour ainsi dire plus, ou alors c'est du print and play, les gars vendent des PDF sur leur site, des trucs du genre, plus personne fait ça. Et je me suis dit, je suis sûrement pas le seul vieux crétin qui a envie d'essayer ce genre de truc et d'y rejouer, et peut-être que si j'en fais 1000 ou 1500, en les faisant dans assez de langues pour qu'on en vende dans le monde entier, il y aura un marché. Et donc, the proof is in the pudding, hein, donc j'ai cassé ma tirelire, et puis je me suis dit, on va voir ce que ça donne.
Donc tu l'as fait, effectivement, ouais. Mais tu as quand même joué la sécurité, puisque le jeu n'était disponible au départ qu'en vente en ligne.
C'est toujours le cas, en fait. J'ai pas encore de deal officiel de distribution. Il y a quelques boutiques en Belgique qui en ont, j'ai trouvé des canaux pour en pousser un petit peu. Mais c'est pas... Dragon Rage n'est pas un jeu qui doit aller dans la distribution, c'est un jeu de niche. 1000-1500 copies, je me donne 5 ans pour les vendre, et les gens qui l'achètent cherche ce genre de jeu, il n'y en a pas beaucoup, et j'en ai vendu aux États-Unis, en France, en Espagne, en Angleterre, en Allemagne, c'est très spécifique, quoi. La distribution ne se justifie pas pour ce genre de jeu.
Ça veut dire que là, tu as ménagé la chèvre et le chou, c'est-à-dire que tu t'es fait plaisir, et en même temps, en mettant un doigt dans l'édition pour voir si ça te plaisait vraiment ?
Oui, c'était un peu ça, et c'était aussi relativement facile pour moi, parce que de formation, je suis photographe, et tous les métiers de l'impression, de l'imprimerie, etc., j'en avais une bonne vision. Et ça fait assez longtemps que je circule dans le milieu du jeu de rôle, du jeu de société, du jeu de rôle grandeur nature, de Magic, tous ces machins-là, etc., pour voir un peu comment ça fonctionne. Et je me suis dit, bon, allez, je crois que je peux le faire, je risque.
Okay. Alors, en quelques mots, Dragon Rage, c'est quoi ?
Dragon Rage, c'est une ville humaine qui est attaquée par deux dragons. C'est un jeu asymétrique. Un joueur joue les deux dragons, un joueur joue une poignée d'humains, une trentaine à peu près. Et ça bastonne à l'ancienne, c'est-à-dire hexagone, pion avec des petits chiffres de valeur de combat écrits dessus, une table de résolution, des dés à côté. Mais attention, c'est pas du hasard, ce sont des probabilités, on joue les ratios, c'est-à-dire que si on arrive à 5 contre 1, ça fonctionne. Si on est à 1 contre 1, bah évidemment, là c'est une chance sur 2. Quoi.
D'accord. Et donc l'un des joueurs joue les dragons, l'autre les humains, ça veut dire qu'il y a du déplacement, il y a du placement quelque part, il y a quoi comme genre de mécanisme ?
Il y a de la gestion du positionnement des troupes, on apprend à bouger sur des hexagones et optimiser ses mouvements. La gestion des ratios pour les combats, comme je le disais. Et en fait, c'est beaucoup plus complexe qu'un jeu classique, parce que il n'y a pas un ou deux chemins bien indiqués, on peut vraiment aller où on veut, et donc les possibilités sont infinies, quoi.
Ok, donc ça, effectivement, c'est un jeu de niche. On est sur quelle durée ?
La première partie, il faut compter 2 bonnes heures, mais quand on l'a en main, ça dure 1 heure, 1 heure et demie. Et par contre, la durée de vie est très très grande, elle, parce qu'il y a 6 scénarios pour avoir non pas des dragons, mais aussi un tyrannosaure, ou des géants, ou des orques qui attaquent la ville. C'est très différent. 20 orques contre 20 humains et 2 dragons contre 20 humains, c'est pas du tout la même chose. Et alors, on a rajouté plein de trucs. Un système de campagne, un système de points pour faire ses propres scénarios, un système de tournoi qui vraiment allonge la durée de vie du jeu, parce que c'est beaucoup plus cher que les jeux qu'on faisait à l'époque. C'est-à-dire qu'à l'époque c'était 5$, ça ferait 25€ actuel. Là on les vend 50€, et donc en le rééditant, on voulait de la qualité top, des gros pions bien épais toilés comme on aime, un vrai plateau, pas un poster en carton de cornflakes ou des trucs comme ça. Mais ça veut dire qu'il fallait mettre pour 50€ 2 jeux dans la boîte, parce qu'il y a une business proposition qui doit être là présente, et donc on rigole pas sur la qualité. Je veux dire, ça c'est vraiment le truc sur lequel je chipote pas. Par exemple, il y avait une petite erreur sur l'aide de jeu, on a réimprimé 1200 aides de jeu. Même si on perd de l'argent dessus, c'est pas grave, il faut que la qualité soit là sur ce genre de produit, parce que c'est pour des passionnés.
Alors le jeu est de Lewis Pulsifer, comment ça s'est passé le contact avec lui pour pouvoir le rééditer ?
Il était demandeur en fait, il avait cherché chez quelques éditeurs, mais c'est trop old school pour intéresser les éditeurs actuels qui font des jeux, je veux dire, un peu plus simples, et c'était un vrai risque éditorial de le faire. Et moi, comme je me permets d'en faire que 1500 exemplaires, c'était jouable. D'autres doivent faire 5 ou 10 000 exemplaires et passer en distribution. Et honnêtement, Dragon Rage, un passionné va être tout fou avec, mais c'est une boîte qui pourrait prendre la poussière chez un détaillant qui le prend en disant on verra bien, quoi. Et donc c'est vraiment, ça s'adresse à un public spécifique.
Clairement, c'est un jeu qu'il faut vendre, il faut le défendre.
Tout à fait, oui, tout à fait. Et il faut pas. Il faut que les gens sachent ce que c'est comme jeu. Donc c'est un wargame old school. Si quelqu'un aime le jeu de plateau, qu'il a envie d'essayer le wargame, mais qu'il n'a pas envie d'un truc trop complexe, c'est l'idéal. Il y a des ados et des pré-ados qui font du jeu de rôle, qui aiment le truc fantasy, etc., qui rentrent dedans aussi, parce qu'à partir de 12 ans, les règles sont tout à fait gérables. On n'est pas dans un monstre avec 5000 pions de chaque côté, etc. Et alors, il y a des wargamers passionnés qui aiment bien se distraire un petit peu en faisant ah, allez, pour une fois, on lâche les tanks et on prend des dragons.
C'est un jeu d'apéro pour wargamers.
J'irai pas jusque-là, mais c'est par rapport à un wargame classique, ouais, c'est du light, ça c'est clair. Hein.
Alors, donc ça c'est Dragon Rage. On fait un bond de l'autre côté du spectre ludique, puisque ta présence à Essen, c'est la première présence à Essen.
Tout à fait, oui.
On parle de Rumble in the House, qui est une boîte toute petite et qui a l'air bien sympathique. C'est quoi l'idée de Rumble in the House ?
Alors, Rumble in the House, c'est un petit jeu d'ambiance de Olivier Safre, dans lequel on a un appartement avec 12 personnes. Chacun a 2 personnages secrets. Il connaît ses personnages, mais ne connaît pas ceux des autres, donc on ne sait pas qui est qui. Et quand on joue, on peut soit déplacer un de ces bonhommes, soit choisir une pièce où il y en a plusieurs, et en éjecter un. Et on continue comme ça jusqu'au moment où il en reste un seul. Quand il reste un seul personnage, tout le monde révèle ses personnages secrets, et on reçoit des points suivant l'ordre de sortie des personnages. Donc les premiers sortis valent rien, le dernier sorti vaut 10 points. On fait ça 3 fois, et celui qui a le plus de points a gagné. C'est tout simple, il y a du bluff, de la déduction, ça peut jouer en famille, ça dure 20 minutes, à partir de 8 ans ça fonctionne, et c'est tout con, mais c'est fun.
Le matériel, en fait on a des tuiles qu'on va placer sur la table, ce sont à chaque fois des pièces de l'appartement, donc ça veut dire qu'il y a une rejouabilité puisque l'appartement va jamais être le même, et donc on a des pions qui représentent ces personnages qu'on place à chaque fois seul dans sa pièce, et puis ils vont bouger.
C'est ça, tout à fait. Donc au début on commence avec les 12 pièces et un bonhomme dans chaque pièce, et la boîte est très 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 remplie. D'ailleurs quand on reçoit la boîte, elle n'est pas complètement fermée tellement il y a du matos dedans, et puis une fois qu'on a tout dépunché, il y a moyen de tout ranger pile poil dans la boîte, et là ça fonctionne bien.
Ok, d'accord. Qu'est-ce qui t'a fait passer le pas pour éditer ce jeu-là en deuxième jeu?
Parce que c'était possible financièrement de le faire, parce que c'est un petit jeu et donc ça demande un investissement moins conséquent. Ça fait plus de 5 ans que je connais le jeu, je connais Olivier Safre l'auteur, et c'est un jeu qui ressortait régulièrement au club de jeu, et malgré que ça soit tout léger et tout con, après 5 ans, on continuait régulièrement à le ressortir. Si après 5 ans on continue à y jouer, bah c'est qu'il y a un potentiel, et apparemment les gens sont intéressés par le jeu, il a l'air de fonctionner, on a fait quelque chose le plus joli possible pour que ça ait vraiment toutes ses chances, et puis on va voir s'il a des ailes, comme disent les Anglais, on verra si ça marche, quoi. Okay.
Olivier Safre, on le connaît sur d'autres jeux ?
Non, c'est son premier jeu. D'ailleurs, il n'a malheureusement pas su venir à Essen parce qu'il est jeune papa. Et donc, entre les langes et l'appel des projecteurs, il a été raisonnable. Lui.
Le bébé n'est pas le même.
Le bébé n'est pas le même. Mais ça lui fait 2 bébés en très peu de temps et il est super content, évidemment.
Effectivement. le nom de ta société d'édition, c'est Flatline Games. Le logo, c'est un encéphalogramme qui est très actif d'un côté et qui devient un plat de l'autre. C'est quoi ce choix ?
C'est d'abord un petit gag, parce que quand on joue, on a des trucs qui sont vraiment... tous les joueurs de nos types de jeux, je vais dire, sont des gens qui aiment bien les jeux où on se prend un peu la tête, où il y a une grosse activité cérébrale. Et on est tous aussi souvent amateurs de jeux très très cons, à la Looping Louis ou des machins du genre, où il ne faut pas réfléchir du tout. Et donc ça donne les deux facettes, et ça fait un petit clin d'œil aussi à beaucoup de gens, en disant, ben voilà, le joueur... Il y a des moments où on est vraiment en train de booster du neurone, et il y a des moments où c'est le niveau zombie.
Bien, et bien, longue vie à Flatline Games, donc bienvenue à Essen, effectivement, parce que c'est, bon, le stand est beau, il est lumineux, les gens s'arrêtent. Donc voilà, on te suit là-dessus et félicitations.
Merci beaucoup et à bientôt.
Vous avez aimé ce podcast, alors appuyez sur la touche Trop Cool. Vous n'avez pas aimé ce podcast, alors continuez. Sur podcast.net, vous en trouverez d'autres. Vous verrez, à l'usure, vous y arriverez.